Sainte Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens,
priez pour nous.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Voilà donc le thème de cette conférence, la sainteté, est-ce encore possible aujourd'hui? Question qu'on peut légitimement se poser à cause un petit peu des difficultés de notre époque que les chrétiens peuvent rencontrer et qui effectivement ne facilitent pas beaucoup la sanctification. Mais je voudrais tout d'abord commencer par rappeler qu'il y a eu des saints à toutes les époques. Quand on regarde le martyrologe, c'est-à-dire le catalogue dans lequel on voit tous les saints de l'Église, on voit qu'il y en a eu vraiment à tous les siècles et dans tous les endroits. La sainteté, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à une époque ou à un lieu particulier. C'est quelque chose qui est universel et de tous les temps dans la Sainte Église. Si l'Église ne produisait pas des saints, elle ne serait plus l'Église. L'Église est sainte, c'est une des notes de l'Église, une des caractéristiques de l'Église catholique. Alors, effectivement, aujourd'hui, néanmoins, ça semble plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde moderne qui nous tirent plus vers le bas que vers le haut, et on peut se sentir un peu comme noyé dans le matérialisme, peut-être même le sensualisme de notre époque. Alors on se pose la question, effectivement, la sainteté aujourd'hui, est-ce encore possible? Alors je voudrais faire cet exposé en trois parties. Tout d'abord, une première partie sur la nécessité de la sainteté pour nous, à notre époque. Ensuite, développer un petit peu la nature, l'essence de ce qu'est la sainteté, parce qu'on peut aussi se faire de fausses idées de la sainteté. Et enfin, nous verrons comment se sanctifier, la voie qui mène à la sainteté. Alors tout d'abord, la nécessité de la sainteté. Je voudrais insister sur le fait que c'est la vocation de tout homme. Saint Bernard, qui est rentré donc dans l'ordre de Saint Benoît et qui est un petit peu à l'origine plus ou moins de la réforme des cisterciens, eh bien se disait souvent cette question en latin « ad quid venisti ?» Ça veut dire « pourquoi es-tu venu ? Pourquoi es-tu venu dans ce monastère ?» Bien sûr, la réponse, c'était « pour se sanctifier ». Quand on devient religieux, c'est pour se sanctifier. Mais, eh bien cette question, tout chrétien peut se la poser. Et c'est une question qu'on devrait se poser un petit peu tous les matins quand on se pose devant le bon Dieu pour notre prière un peu du matin, voilà, se rappeler, ad quid venisti, pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu au monde? Pourquoi est-ce que le bon Dieu t'a créé? La réponse, elle est simple, elle est unique, c'est pour être des saints. Voilà. On peut avoir beaucoup de vocations différentes, mais on a au moins tous cette vocation qui est commune à tous les hommes, on est fait pour être des saints. Alors, notre Seigneur, dans l'Évangile, lui-même, eh bien, nous le dit de façon formelle. Il nous dit « soyez parfaits ». C'est cela. « Soyez parfaits ». Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, aux religieux, aux prêtres, que sais-je, qui effectivement se consacrent peut-être davantage à la vie spirituelle. Ce n'est pas réservé à ces personnes-là. Lorsque notre Seigneur dit « soyez parfaits », il ne s'adresse pas uniquement au petit groupe de ses apôtres, il s'adresse à la foule qui est devant. Soyez parfaits. Et saint Paul, eh bien, un des plus grands apôtres de l'Église, nous dit aussi cela d'une façon formelle. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Il dit cela dans son épître. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Alors, Dieu lui-même est saint. Et on voit que dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, eh bien, a une vision du trône de Dieu dans le ciel avec les séraphins qui sont les plus élevés des anges, qui se prosternent devant son trône et qui répètent par trois fois « Saint, Saint, Saint le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. » Eh bien, tout homme doit être saint aussi pour être admis dans la vision, la contemplation de Dieu. Et vous savez que c'est pour cela que nous sommes faits. L'homme est fait pour contempler Dieu face à face dans le ciel, dans l'éternité. C'est cela, le bonheur du ciel, c'est de voir Dieu face à face. Pour être admis dans la contemplation d'un Dieu qui est si saint, eh bien, il faut que nous-mêmes nous soyons saints. Et que si nous n'avons pas, eh bien, suffisamment atteint la sainteté ici-bas, eh bien, vous le savez, c'est aussi un dogme de notre foi. Dieu a prévu un lieu de purification qu'on appelle le purgatoire et où les âmes sont purifiées pour pouvoir être assez saintes pour paraître devant Dieu. Donc tout d'abord, la sainteté est nécessaire parce que c'est notre vocation. En tant que créature de Dieu, en tant qu'homme, nous sommes appelés à cette sainteté. Et cela, c'est vrai pour nous à notre époque, comme c'était vrai pour les chrétiens des siècles qui nous ont précédés. Un deuxième motif qui doit nous pousser à nous sanctifier, c'est que les saints sont très utiles pour le bien de l'ensemble de l'Église et pour le salut des âmes qui nous entourent. Saint Jean de la Croix disait cette belle parole, je vous donne en substance, une âme sainte est plus utile à l'Église qu'une multitude d'autres qui s'agitent dans l'action. Et c'est vrai, on pourrait se dire, ben, je vais faire plein de choses pour essayer de rendre les hommes meilleurs. Très bien, l'action n'est pas mauvaise en soi, elle est même bonne, le bon Dieu la veut, mais pour que notre action porte du fruit, il faut qu'elle procède d'un bon fond, et donc il faut que nous soyons saints. Voilà. L'action sera d'autant plus fructueuse qu'elle aura pour principe eh bien, un cœur qui sera saint. Et c'est ce que Saint Jean de la Croix nous dit. Saint Jean de la Croix, qui est un petit peu le docteur de la vie spirituelle dans l'Église, eh bien, Saint Jean de la Croix nous dit qu'une seule âme qui approche de la sainteté est plus utile à l'Église qu'une multitude d'autres qui s'agitent dans l'action. Et je voudrais aussi vous citer un père capucin du siècle dernier, qui était libanais. Voilà ce qu'il disait. Il le disait à des missionnaires capucins, mais cela vaut aussi pour nous. Il leur disait « Sans la sainteté, rien n'est utile. Vous ne pouvez conquérir le monde qu'avec une arme que le monde ne possède pas. Or, le monde est instruit. » Le monde est riche, le monde est actif, etc. Mais il n'est pas saint. Le jour où nous serons saints, disait ça des missionnaires, nous convertirons le monde entier. Effectivement, plus une âme est sainte, plus elle rayonne sur son entourage. Il faut penser à cela. On ne se sanctifie pas seulement pour soi, on se sanctifie pour le bien de ceux qui nous entourent, pour tout le bien de la Sainte Église. Et enfin, troisième motif que je voudrais apporter pour nous, un motif encore supplémentaire de travailler très généreusement à notre sanctification, eh bien, ce sont les malheurs des temps, justement, les malheurs de notre époque. Et je voudrais pour cela vous citer le cardinal Pie, qui était un évêque célèbre du 19e siècle, évêque de Poitiers, et qui a connu eh bien, ce qu'on appelle le progrès du catholicisme libéral. Catholicisme libéral, qu'est-ce que c'est ? C'est le catholicisme qui essaye de faire des compromis un petit peu avec l'esprit du monde moderne, voyez ? Et qui du coup, eh bien, s'étiole, qui perd sa puissance, sa force de sanctification. Eh bien, voilà ce qu'il disait, le cardinal Pie. Je déclare qu'avec un minimum de religion, le salut public est devenu impossible. Être franchement, pleinement chrétien, dans la croyance comme dans la pratique, affirmer toute la loi doctrinale comme toute la loi morale, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le cardinal nous encourage à être pleinement, franchement chrétien à notre époque. Et justement, être pleinement, franchement chrétien, c'est justement être saint, pousser notre christianisme jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il terminait en disant, avec un demi-christianisme, on ne sauvera rien, on ne sauvera rien. Alors c'est aussi à des prêtres qu'il s'adressait dans une retraite sacerdotale. Il leur disait, malheur à vous et à moi, si nous ne luttons pas d'exemple et de parole contre les maximes et les vanités d'un monde ennemi de la croix de notre maître. Le christianisme se caractérise par la croix. Eh bien, le monde moderne rejette la croix. Eh bien, voilà, le cardinal Pio nous encourage à lutter d'exemple et de parole contre les maximes et les vanités d'un monde ennemi de la croix de Jésus-Christ. Puisse-t-il nous être donné à tous de comprendre enfin que les vertus ordinaires ne suffisent plus ni pour nous sauver, ni pour sauver les autres. Cardinal Pio insiste sur le fait que les vertus ordinaires, à notre époque, ne suffisent plus, même pour faire son propre salut. Effectivement, quand on regarde le monde moderne autour de nous, nous voyons beaucoup d'occasions de péché, beaucoup d'occasions qui nous tirent vers le bas, qui nous éloignent de Dieu. Eh bien, pour pouvoir résister à toutes ces tentations, cela exige de notre part une vertu qui n'est pas une vertu commune. Voilà. Dans un contexte où il n'y a pas de tentation, il n'y a pas besoin que la vertu soit très très grande pour bien vivre. Mais dans un contexte où il y a des tentations partout, ça exige d'autant plus une vertu solide, une vertu profonde. Et voilà ce que nous dit le cardinal Pio. Enfin, il termine en disant « La situation empire à vue d'œil ». Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le monde autour de nous, on se demande jusqu'où on va descendre, hein, avec les lois de plus en plus contre-nature qui peuvent se divulguer dans les États, même de l'Europe autrefois chrétienne. La situation empire à vue d'œil. Les hommes de mal se posent en maître de l'avenir. Qui leur résistera? Qui leur résistera? En de telles conjonctures, il faut en vous la sainteté. Soyez saints, soyez saints. Voilà ce que le cardinal Pio disait à ses prêtres dans une retraite sacerdotale. Alors si c'est, bien sûr, c'est d'autant plus vrai pour les prêtres, mais c'est vrai aussi pour tout fidèle. Soyons donc pleinement chrétiens dans notre monde aujourd'hui. Alors maintenant, après avoir vu la nécessité de se sanctifier, essayons un petit peu de mieux cerner quelle est la nature, l'essence de la sainteté. Parce qu'on peut se faire aussi de fausses idées. Alors, je partirai de cette parole de notre Seigneur. Je reprends sa parole. Il nous dit « Soyez parfaits » et il précise « Comme votre Père Céleste est parfait. » Autrement dit, notre Seigneur nous donne comme exemplaire de notre sainteté la sainteté de Dieu même. La sainteté de Dieu même. Et Saint Jean, justement, nous dit dans son épître, Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà. Effectivement, quand on contemple ce grand mystère de notre foi, le mystère de la Sainte Trinité, voilà, en Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, de toute éternité, eh bien, engendre son Fils. Voilà. Et le Père et le Fils s'aiment d'un amour éternel qui est le Saint-Esprit. La vie de la Sainte Trinité, cette vie d'union des trois personnes divines qui ne sont qu'un être, qu'un seul Dieu, eh bien c'est l'exemplaire de notre sainteté. Une vie d'amour, un amour qui nous dépasse complètement, qui est mystérieux pour nous, eh bien qui est notre modèle pour la sainteté. Nous devons imiter l'amour qu'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il on ne peut même pas dire qu'il a l'amour, il est l'amour, il est l'amour. Voilà. Eh bien, le chrétien, d'une certaine manière, doit aussi tendre à être amour. Voilà. Et non seulement le mystère de la Sainte Trinité nous exhorte à cela, mais aussi les autres mystères de notre foi. Nous voyons que eh bien, la création du monde est une œuvre d'amour. Dieu n'avait pas besoin du monde. Il a voulu créer le monde pour nous rendre participants de son bonheur dans le ciel. C'est par pur amour que Dieu crée le monde. Quand le Père envoie son Fils qui s'incarne, qui meurt sur la croix pour nous sauver, c'est encore l'amour. L'amour. Dieu a tant aimé le monde, nous dit saint Jean, qu'il lui a donné son Fils unique. Eh bien, tout en Dieu et dans les œuvres de Dieu doit nous pousser, nous exhorter à aimer, à aimer. Eh bien, la sainteté humaine, c'est cela. C'est aimer, essentiellement aimer. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'aimer n'importe quoi, parce qu'on peut dire que le péché, c'est un amour aussi. Mais c'est un amour qui est désordonné. On aime quelque chose plus que Dieu, par exemple. Ou on aime quelque chose pas comme le bon Dieu le voudrait. Donc, en fait, on aime, mais c'est un amour qui est désordonné. Voilà, le péché, c'est un amour, mais c'est un amour qui est désordonné, qui est vicié. Voilà. Et donc, bien sûr, la sainteté, c'est aimer Dieu par-dessus toute chose. Donc, Dieu nous a doués d'une intelligence, nous a doués d'une volonté. Notre intelligence nous permet de le connaître et de l'aimer. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes faits. Quand on fait les retraites de saint Ignace, on commence toujours par ce principe et fondement que saint Ignace met tout au début de sa retraite. Il nous dit « L'homme est créé pour connaître, aimer, servir Dieu. » Voilà. Et ainsi mériter le bonheur du ciel. Eh bien, on revient tout simplement à cela. La sainteté, c'est cela. Alors, peu d'hommes, malheureusement, répondent à cette vocation. Et le saint curé d'Ars, dans un langage très simple, le disait. Il disait « Le bon Dieu a créé les oiseaux pour qu'ils chantent, et ils chantent. Il a créé l'homme pour qu'il l'aime, et il ne l'aime pas. » Et il ne l'aime pas. Alors, rappelons-nous toujours cela. Le premier commandement, celui qui contient tous les autres, c'est le commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu et du prochain pour Dieu. Pour Dieu. Et saint Jean, eh bien, exprime aussi d'une façon très belle cela. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voilà la sainteté. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors j'insisterai sur le fait que cet amour n'est pas un amour naturel, c'est un amour qui est surnaturel et qui repose sur la foi. Nous croyons en Dieu dans les mystères de notre foi, la Trinité, l'incarnation, la rédemption dont nous venons de parler, et notre amour de Dieu repose sur cette foi. Dieu se révèle à nous. Et on aime Dieu tel qu'il se révèle à nous. Et c'est pour cela qu'on donne à cet amour un nom particulier, le nom de charité. Voilà. C'est un amour surnaturel, la charité. Sans elle, notre vie n'a pas de prix, de valeur aux yeux de Dieu. Sans l'amour de Dieu, tout le reste ne vaut rien. C'est saint Paul aussi qui le dit dans le chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens. Il dit, eh bien, quand bien même je pratiquerai l'aumône ou la mortification ou que sais-je, plein de toutes les vertus, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Ce qui fait toute la valeur de notre vie, c'est qu'elle est animée par l'amour de Dieu. Et il termine en disant, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Très belle parole de saint Paul. Alors, qu'est-ce donc que la sainteté ? Je résumerai par cette belle parole aussi de saint François de Sales, qui, vous savez, a composé tout un traité de l'amour de Dieu en 550 pages. Eh bien, saint François de Sales a cette parole toute simple. Justement, en quoi consiste la perfection ? Et il répond : les uns la mettent dans l'austérité, la mortification, le sacrifice. D'autres dans l'aumône, d'autres dans la fréquentation des sacrements, d'autres dans la prière, l'oraison. voilà, différentes opinions des hommes. Voilà en quoi consiste la sainteté pour eux. Et voilà ce que lui, il nous dit. « Pour moi, je ne connais point d'autre perfection que d'aimer Dieu de tout son cœur. Sans cet amour, tout l'amas des vertus n'est qu'un monceau de pierre. » Tout l'amas des vertus n'est qu'un monceau de pierre. C'est la charité qui vient informer, qui vient élever notre vie et la rendre agréable à Dieu. Et saint Jean de la Croix, que j'ai déjà cité, confirme en disant « La fin de tout, c'est l'amour. Au soir de votre vie, vous serez jugé sur l'amour. » Au soir de votre vie, vous serez jugé sur l'amour. Alors essayons maintenant de préciser. Le propre de l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est d'unir. Et si nous aimons Dieu, eh bien, comme dit saint Paul, nous devons faire, pour ainsi dire, plus qu'un esprit avec Dieu. Et la charité a justement cette propriété d'unir notre volonté à la volonté de Dieu. Voilà. Unir notre volonté à la volonté de Dieu. Saint Jean, donc, comme je citais, disait « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. » Vous voyez cette union de Dieu et de l'âme ? Dieu demeure en lui, il demeure en Dieu. Et ça se fait par la volonté, par la volonté. Et saint Bernard, qui a aussi fait un traité de l'amour de Dieu au Moyen-Âge, avant saint François de Sales, eh bien disait, en parlant justement des saints, il prend cette comparaison qui nous aidera à comprendre. « De même que la goutte d'eau mêlée au vin paraît s'y dissoudre entièrement au point de prendre la saveur et la couleur du vin, de même aussi que le fer rouge et brûlant quitte sa forme première pour devenir tout semblable au feu, de même aussi, dans les saints, la volonté humaine se dissout complètement et de façon ineffable pour s'écouler parfaitement dans la volonté de Dieu. » La charité, c'est ça, c'est n'avoir plus qu'une volonté avec Dieu. Parvenir à un tel état, nous dit saint Bernard, c'est être déifié. Alors l'expression peut nous paraître un peu forte, mais c'est un petit peu cela. La sainteté, c'est ressembler à Dieu, donc d'une certaine manière, à un certain degré, être déifié. Et cela se fait par la volonté, l'union de notre volonté à la volonté de Dieu. C'est cela essentiellement la charité. Et vous remarquerez que c'est la demande centrale du Notre Père. Quand les apôtres demandent à notre Seigneur de leur apprendre une prière, notre Seigneur leur apprend tout simplement la prière du Notre Père. Et au milieu de la prière du Notre Père, nous avons cette demande « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Eh bien, c'est cela. Si notre vie se conforme de plus en plus à cette demande centrale du Notre Père, eh bien, nous serons des saints. Et notre Seigneur ne s'est pas contenté de nous le dire, il nous en a donné l'exemple. Et c'est très beau, lisez l'évangile de saint Jean, vous verrez à toutes les pages comme un refrain qui revient sans cesse à nos oreilles, dans la bouche de notre Seigneur, c'est qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, accomplir son œuvre. Tout, à chaque page de l'évangile de saint Jean, cela revient à chaque chapitre, on a une parole comme ça de notre Seigneur qui dit qu'il est là pour faire la volonté de Dieu. Voilà. Il disait même à la Samaritaine, ou plutôt aux apôtres, dans le chapitre 4 de saint Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais toujours ce qui lui plaît. » Voilà, voilà la sainteté. Et cela jusqu'au sacrifice. Jusqu'au sacrifice. En effet, eh bien, dans les derniers jours de sa vie, nous voyons notre Seigneur en agonie au Jardin des Oliviers, hein, à la veille de sa passion. Il voit déjà toutes les souffrances qu'il va devoir endurer pour expier les péchés des hommes. Quelle est la prière qu'il fait ? Les évangélistes nous disent qu'il est allé prier, voilà, pendant une heure. Par trois fois, il revient prier, il prie avec persévérance. Et par trois fois, il redit exactement la même parole, nous disent les évangélistes. « Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, c'est-à-dire si ces souffrances peuvent s'éloigner de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais votre volonté. Il revient même dans les moments des plus grandes angoisses, des plus grandes souffrances, même là, il garde sa volonté unie à la volonté de son Père. Eh bien, c'est là l'exemplaire même de notre sainteté. Et sur la croix, il pourra dire, tout est accompli. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, il a fait parfaitement la volonté de son Père. Il peut enfin rendre son âme, la rendre entre ses mains. Voilà. Et quand on regarde aussi la vie de la Très Sainte Vierge, nous pouvons dire qu'elle se résume aussi dans ces paroles qu'elle a prononcées à l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, c'est-à-dire en définitive, selon votre volonté. Voilà. L'exemplaire même de la sainteté, c'est cela. Alors, attention, voyez, lorsqu'on dit la sainteté, c'est aimer. Oui, c'est aimer. Mais il faut toujours se faire ce petit examen de conscience. J'aime le bon Dieu. Oui, bien sûr, j'aime le bon Dieu. Mais deuxième question, est-ce que je me conforme à la volonté du bon Dieu dans ma vie? Ah, et c'est là peut-être qu'il y a plus d'hésitation dans la réponse. Voilà. Parce que justement, comme dit notre Seigneur, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, voilà, ou mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime, qui aime réellement le bon Dieu. Mais c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu dans sa vie. Donc il est très important de se rappeler cela. La charité, c'est l'union des volontés. N'avoir qu'une volonté avec Dieu, et cela jusque dans le sacrifice, jusque dans les renoncements, que va nous demander le bon Dieu. Car le bon Dieu nous demande aussi des renoncements, comme il en a demandé à son Fils sur la croix. Et je voudrais tout simplement prendre cette comparaison même dans l'amour naturel, dans l'amour humain, eh bien on retrouve cette loi qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans renoncement. Je prends l'exemple du mariage. On a donné son cœur à une personne. Par le fait même qu'on a donné son cœur à cette personne, on ne peut plus donner à quelqu'un d'autre. C'est pareil pour Dieu. J'aime le bon Dieu, je lui donne mon cœur. Eh bien, il y a des conséquences. La conséquence, c'est que si je donne mon cœur à Dieu, je ne peux plus donner à n'importe quoi. Voilà. Et donc, je dois éviter le péché, je dois éviter tout ce qui peut déplaire au bon Dieu. Et donc, ce sont la conséquence, c'est le renoncement. C'est toujours le revers de l'amour, c'est le renoncement. Et c'est pour cela que Saint Augustin résumait toute la loi chrétienne en deux mots, diligens, aime, et abneges, renonce-toi. Aime, renonce-toi. Deux aspects complémentaires de la vie chrétienne. Et effectivement, eh bien, lui-même, saint Augustin, a cette expression, il parle de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est-à-dire jusqu'au détachement et au renoncement à toutes nos petites volontés propres qui, finalement, nous empêchent d'aimer le bon Dieu. Alors voilà, je termine par une conclusion d'un auteur spirituel, Monseigneur Sodreau, qui définit ainsi la sainteté. La perfection, nous dit-il, c'est la charité. Mais, il précise, une charité assez forte pour produire le renoncement habituel à tout ce qui empêche le cœur de se donner à Dieu entièrement. C'est la charité, mais qui a brisé toute attache purement naturelle, qui d'une façon habituelle ne veut que ce que Dieu veut, voyez, union des volontés. C'est donc l'entière conformité à la volonté divine. Voilà. Et le père Ange de Joyeuse, qui était un père capucin du XVIe siècle, qui a combattu le protestantisme, il a même dû sortir du cloître à la demande de son frère qui était cardinal, qui avait obtenu une dispense de ses vœux pour pouvoir prendre la tête des armées chrétiennes catholiques dans le sud de la France pour combattre les armées protestantes dans le sud de la France, et bien qui ensuite est revenu dans le monastère après la guerre. Le père Ange de Joyeuse, dans un langage un peu militaire, Il nous disait ceci. Voulez-vous savoir ce qu'est l'esprit de Jésus-Christ ? C'est de donner de soi-même pleine possession à Dieu. Se donner tout entier à lui pour qu'il nous gouverne, voyez, qu'il nous conduise. C'est lui donner les clés de la forteresse. La forteresse, c'est notre âme, c'est notre personnalité. Il faut lui donner les clés. Les clés de la forteresse. Qu'est-ce que c'est ces clés ? Vouloir et non vouloir. Il faut vouloir tout ce que Dieu veut et ne pas vouloir ce que le bon Dieu ne veut pas. Voilà l'esprit de Jésus-Christ, voilà la sainteté. Alors quand on parle de volonté de Dieu, peut-être vous demandez-vous, mais concrètement, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Eh bien tout simplement, il ne faut pas chercher très loin, concrètement, la volonté de Dieu c'est notre devoir d'État, ce qu'on appelle le devoir d'État. C'est-à-dire, à chaque instant de notre vie et dans les circonstances où on se trouve, faire ce qui est de notre devoir. Par exemple, je suis père de famille, eh bien je dois gagner ma vie pour pouvoir nourrir ma famille, vous voyez. Je suis mère de famille, je dois prendre soin de la maison, vous voyez. Et tout ce qui va s'opposer à ce devoir sera ben, une distance avec cette volonté de Dieu, justement. Par exemple, si le père de famille reste au lit au lieu d'aller au travail, ou si la mère de famille préfère se distraire au lieu de faire leur passage, qui fait qu'après, ça déborde. Voilà, que sais-je, vous voyez. Chacun a son devoir, si vous voulez, et à chaque instant, eh bien, vouloir accomplir son devoir par amour pour Dieu, et, je dirais, avec une certaine joie. C'est ce que disait Saint Jean Bosco. Il disait, la sainteté, en définitive, consiste à accomplir son devoir d'État avec joie, avec joie. Alors, bien sûr, ce devoir d'État, comme on l'a dit, il y a tout ce qui est pénible du devoir d'État. Pas toujours facile de toujours retourner au travail chaque jour, ou de toujours refaire les mêmes tâches ménagères chaque jour, tout ça, voyez. Mais cette fidélité à la volonté de Dieu, au devoir, c'est ça qui nous sanctifie. C'est ça qui nous sanctifie. Sainte Thérèse d'Avila disait « Aux choses extraordinaires, je préfère la monotonie du quotidien. Je préfère la monotonie du quotidien. Il est parfois plus héroïque d'être fidèle aux petites tâches du quotidien que de faire un exploit un jour ou l'autre. Voilà. » Non, c'est cette fidélité qui nous sanctifie. C'est là que consiste notre sainteté. Alors, vous voyez que ce devoir d'État, cette volonté de Dieu, elle se concrétise pour chacun d'entre nous d'une façon qui nous est particulière, qui nous est propre. Et la sainteté, donc, sera différente en fonction de chacun. Il ne faut pas vouloir imiter ce que fait l'autre, voyez. Il faut vouloir accomplir la volonté de Dieu là où je suis. Être ce que le bon Dieu veut que je sois. Là, hic et nunc. Ici et maintenant. Et même quand on est dans la même vocation, vous voyez, vous avez deux pères de famille, oui, mais ils n'ont pas le même métier. Vous avez deux religieux, même prenez deux capucins. Même deux capucins, ils n'auront pas la même sainteté exactement, parce que dans le monastère, ils n'auront pas exactement les mêmes tâches, parce qu'en plus, ils n'ont pas tout à fait le même tempérament, et que le bon Dieu demandera à l'un ce qu'il ne demandera pas à l'autre. Vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Mais ce devoir d'État, l'accomplir, avec tout l'amour de notre cœur. Voilà ce que nous devons faire. Et la seule chose qui est commune à tous, c'est justement aimer, aimer, faire la volonté de Dieu. Ça, c'est commun à tous. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, disait qu'elle voulait ne faire que cela, vivre d'amour, vivre d'amour. Et elle enseignait ça à ses sœurs. Elle leur disait, ce n'est pas les œuvres qui comptent, c'est l'amour que l'on met dans les œuvres que l'on fait. Et donc, voyez, une mère de famille qui fait les tâches les plus humbles à la maison, si elle fait ce qu'elle fait avec plus d'amour, eh bien, ça aura plus de mérite aux yeux de Dieu que, je ne sais pas moi, un prêtre qui prêche, mais qui le ferait avec orgueil, au lieu de le faire par amour pour Dieu, voyez. Donc les intentions intérieures de notre cœur sont très importantes ici, pour la sainteté. Et Sainte Thérèse disait à ses sœurs, à ses novices, elle était maîtresse des novices dans son monastère, Elle leur disait, si on vient vous trouver à n'importe quel moment de la journée et qu'on vous demande, que faites-vous là? Votre réponse ne doit pas tant être, j'étends le linge, je prépare les ornements pour la messe, que sais-je. Non, votre réponse doit être, j'aime. Parce qu'à travers tout ce que vous faites, le formel, c'est ça, c'est aimer Dieu, à travers ce que vous faites. C'est cela, la sainteté. Et je terminerai en disant, sur cette essence de la sainteté, que la sainteté, c'est aussi notre bonheur. Il faut bien comprendre cela, que ce n'est pas en fuyant la croix et les renoncements que le bon Dieu va nous demander qu'on va être heureux. Quand on fuit la croix, nous dit l'imitation de Jésus-Christ, elle devient lourde, elle devient pesante, même parfois elle devient insupportable. Mais quand on la porte par amour pour Dieu, alors elle devient légère. Et même c'est elle qui nous porte. Voilà. Eh bien, pensez à cela, notre bonheur ne se situe pas en dehors de notre devoir d'État, il se situe dans notre devoir d'État. Et dans cet amour de Dieu. Saint Augustin, dans son livre des Confessions, c'est très beau, dès la première page, lui qui justement était une âme très ardente et qui a cherché le bonheur partout, dans tous les biens d'ici-bas, dans les plaisirs, dans l'orgueil, tout cela, il n'a pas trouvé le bonheur là-dedans. Et il le dit dans sa première page des Confessions, il dit ceci, « Vous nous avez créés pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. » Voilà. On ne peut trouver le bonheur, le repos qu'en Dieu, dans sa volonté. Et le père Kolb, qui était un franciscain, qui a donné sa vie pour un prisonnier à Auschwitz pendant la guerre, eh bien, il disait ceci aussi, « L'âme qui prend pour but la conformité de sa volonté à la volonté de Dieu se sent immensément heureuse. Elle est dans la paix et rien ne peut la troubler. » Rien ne peut la troubler. Voilà donc pour l'essence de la sainteté. Hein? L'amour de Dieu, la conformité à sa volonté à travers notre devoir d'État. Accomplir notre devoir d'État par amour. Voilà. Alors maintenant, je voudrais insister un petit peu sur la voie de la sainteté ou les moyens pour y parvenir. Alors, tout d'abord, même si les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons ne sont pas les mêmes qu'autrefois, il faut bien comprendre que la nature humaine reste essentiellement la même, que la sainteté reste essentiellement la même, et donc que la voie de la sainteté sera essentiellement la même. Donc, si nous voulons devenir des saints, il faut employer les moyens que les saints des siècles passés ont employés. Il n'y a pas de secret. Et c'est l'Église qui nous donne ces moyens. Voilà. Notre modèle est toujours le même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, dans le Gloria de la Messe, nous disons justement, en parlant de notre Seigneur, « Tu solus sanctus », « Vous seul êtes saint ». Nous ne sommes saints que par participation à sa sainteté. Alors cette œuvre de la sanctification, retenons bien cela, c'est très important, sinon on va passer à côté. Elle est à la fois l'œuvre de Dieu et notre œuvre à nous. Il faut les deux. Il y a Dieu qui va nous travailler et il y a notre coopération à l'œuvre de Dieu. Dieu, nous dit saint Augustin, t'a créé sans toi. Il nous a créé sans nous. Mais il ne te sauvera pas sans toi. Il attend de nous ce oui, cette conformité à sa volonté. Et saint Paul nous dit aussi, en parlant de lui-même, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il se rend compte que la sainteté qu'il peut y avoir en lui ne vient pas de lui, que c'est Dieu qui l'a mise en lui. Donc c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Mais, nous dit-il, sa grâce n'a pas été vaine en moi. C'est-à-dire que saint Paul a coopéré à la grâce de Dieu. L'action de Dieu et l'action de l'homme, il faut les deux. Mais la part de Dieu, bien sûr, est prépondérante. Pourquoi cela? Eh bien, voyez, nous avons un certain fond qui est mauvais. On a tous été marqués par le péché originel. Il a certainement été effacé au moment de notre baptême. mais nous avons encore des conséquences de ce péché originel qui sont là, qui nous tirent vers le bas. Et donc c'est pas en nous appuyant sur nous-mêmes qu'on va grandir, qu'on va s'élever vers le bon Dieu. C'est le bon Dieu lui-même qui va nous élever vers lui. C'est très important d'envisager la sainteté de ce point de vue-là, de penser que c'est pas tant notre œuvre que celle de Dieu. Parce que si on compte trop sur nous, on va s'appuyer sur nous et on n'arrivera à rien. À rien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, a eu une grande crise dans sa vie spirituelle, parce que jusqu'à 22 ans, elle est rentrée au Carmel à 15 ans, jusqu'à 22 ans, pendant les 7 premières années de sa vie spirituelle, elle raconte qu'elle comptait beaucoup trop sur ses forces. Elle voulait conquérir la sainteté à la force du poignet. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et elle a senti qu'elle arrivait contre un mur, qu'elle butait contre ce mur et qu'elle n'allait pas plus loin. Et là, elle a eu une grande crise. Et même des médecins qui ont un petit peu étudié les photos de Sainte Thérèse se rendent compte qu'à l'âge de 22 ans, elle a vu même un strabisme qu'elle n'avait pas avant, parce qu'elle était tellement fatiguée qu'elle avait un œil qui était parti d'un côté. Tellement elle avait lutté pour conquérir la sainteté. Et là, c'est là que le bon Dieu lui a fait la grâce de découvrir sa petite voix, une voix de confiance en Dieu, où elle compte beaucoup plus sur la miséricorde du bon Dieu. Et là, en 2 ans, elle dit qu'elle a fait des progrès beaucoup plus rapides que ce qu'elle avait fait en 7 ans. Parce qu'elle s'était appuyée sur le bon Dieu. Alors, il nous faut donc nous appuyer sur Dieu. C'est la première condition. Il faut aller puiser la grâce à sa source. Et quelle est la source de la grâce ? Eh bien, ce sont en particulier les sacrements. Donc, un des moyens les plus importants pour nous de nous sanctifier, ce sont les sacrements que nous donne l'Église. Quels sont ces sacrements ? Essentiellement, ceux que nous pouvons fréquenter le plus souvent, la confession, sacrement de pénitence. Qu'est-ce que c'est la confession ? C'est justement se débarrasser un peu de tous ces amours mauvais, qui sont nos péchés en fait. Voilà, se débarrasser de cela, se détacher de ces attaches qu'on s'est faites et qui nous empêchent d'aimer le bon Dieu. Et ensuite, le sacrement de l'Eucharistie, donc la communion par laquelle nous nous unissons à Dieu, à notre Seigneur, en recevant la Sainte Eucharistie. Eh bien, ce sacrement a pour fruit principal quoi ? La charité, justement. La charité. On s'unit à Dieu et notre cœur ne fait finalement plus qu'un avec Dieu. Donc, si on est bien fidèle à fréquenter ce sacrement, si on le fait avec ferveur, eh bien, cela portera du fruit, des fruits de sanctification dans notre vie. Et pour cela, bien sûr, il faut quand même avoir des dispositions intérieures, nous approcher avec respect, nous approcher aussi avec le désir de devenir meilleur, voilà, et pas le faire avec routine. Hein, la routine rend tout un peu... empêche beaucoup les fruits des sacrements. Voilà, donc les saints sont allés puiser à cette source. Vous ne trouverez jamais un saint qui ne fréquentait pas le sacrement de confession et le sacrement de la communion avec assiduité. Hein. On voit même des grands saints comme un Padre Pio qui se confessait tous les soirs, ou qui... voilà. Bon. Et pourtant, ils avaient moins de péchés que nous à accuser. Hein. Donc, ils savaient qu'ils ne puiseraient jamais suffisamment la grâce dans ces sources de la grâce que sont les sacrements. Et puis ensuite, il y a un autre moyen pour nous de puiser en Dieu la grâce, la force dont nous avons besoin pour nous sanctifier, c'est la prière. La prière. Hein. Notre Seigneur disait à ses apôtres, il faut toujours prier. Alors cette parole de notre Seigneur nous paraît quand même un peu forte. Comment arriver à toujours prier ? Voilà. Bien sûr, c'est surtout une intention, si vous voulez, de notre âme. Le matin, on offre sa journée au bon Dieu, on se donne à lui, et on lui a demandé toutes les grâces dont on a besoin, et ensuite on essaie de rester un peu dans cette intention de notre journée toute offerte à Dieu. Et c'est cela, vous voyez. Après, bien sûr, si on arrive à garder la présence de Dieu au cours de la journée, tant mieux, il faut quand même essayer de le rechercher. Mais voilà, surtout, aller puiser la grâce en Dieu par la prière, demander les secours. Si on se lance dans notre journée sans nous être mis à genoux devant Dieu, pour lui demander son secours, sa grâce, eh bien, on n'aura pas cette grâce. et au lieu de devenir des saints, on deviendra des pécheurs. Donc il faut demander au bon Dieu sa grâce. Et après, une fois qu'on a puisé la grâce de Dieu par les sacrements et par la prière, eh bien, il faut ensuite la coopération de l'homme. Coopération de l'homme, c'est justement les efforts. Les efforts par la pratique, eh bien, des petits renoncements, des petits sacrifices du quotidien. Voilà, les efforts qu'on va faire pour être bien fidèle à notre devoir en particulier. Tous les sacrifices qui sont inhérents à notre devoir d'État, c'est cela que le bon Dieu attend de nous. Voyez. Parfois, il nous arrive de rencontrer des âmes qui voudraient faire tel ou tel sacrifice, mais qui, en fait, passent à côté des sacrifices qui sont inhérents à leur devoir d'État. Et elles passent à côté de l'essentiel, voyez. Elles se détournent de l'essentiel pour s'accrocher à de l'accidentel. Alors, quand on est bien fidèle à offrir des sacrifices quotidiens à Dieu, des petits renoncements, ça c'est très bon pour le progrès spirituel. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, était un modèle pour cela. Elle disait, je ne me sens pas à la force de faire des grands sacrifices, non. Mais par contre, je ne veux laisser échapper aucun petit sacrifice. Je ne veux laisser échapper aucun petit sacrifice. Et là, il y a aussi de l'héroïsme là-dedans, hein. C'est jamais aucun petit sacrifice. Et offrir ces petits riens, mais par amour pour Dieu, c'est très bon pour nous sanctifier. Alors je voudrais maintenant insister sur deux principes aussi très importants, qui sont liés avec ce que je viens de dire, mais qui sont tirés aussi de la Sainte Écriture. Le premier principe que nous devons retenir, cette parole de notre Seigneur à ses apôtres à la dernière scène, il leur dit... Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, c'est très vrai dans la sainteté. On ne peut pas se sanctifier du tout sans notre Seigneur. Et donc, ce premier principe, si vous voulez, si nous l'avons bien à l'esprit, ça va nous mettre dans une profonde humilité, qui est une très bonne disposition pour la sainteté. Et ensuite, le deuxième principe, qui est un petit peu le pendant, et que nous trouvons chez saint Paul, c'est cette parole « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Je puis tout en celui qui me fortifie. Si je m'appuie sur Dieu, j'y arriverai. Et on doit en être persuadé, voyez, comme saint Paul, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Vous voyez comment ces deux paroles se répondent. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je puis tout en celui qui me fortifie. Sans notre Seigneur, je ne puis rien. Avec notre Seigneur, je puis tout. Et nous devons avoir une foi très grande dans ces deux paroles de l'Écriture. Cela, eh bien, va nous faire donc avoir deux dispositions très bonnes. L'humilité, donc j'ai dit, et puis aussi la magnanimité. En m'appuyant sur Dieu, je vais pouvoir faire de grandes choses, de grandes choses. Et je voudrais là vous citer saint Bernard, encore lui, qui a une très belle parole, justement sur la complémentarité qui existe entre l'humilité et la grandeur d'âme. Humilité et grandeur d'âme sont deux vertus qui se corroborent toutes deux. Voilà ce qu'il nous dit. La profondeur de l'humilité ne nuit en rien à la grandeur d'âme. Et la grandeur d'âme ne nuit en rien à l'humilité. La grâce divine opère cette merveille dans le cœur des élus que l'humilité ne les rend pas pusillanimes, lâches. Pas plus que la grandeur d'âme ne les rend orgueilleux ou présomptueux. Mais en eux, au contraire, ces deux vertus se fortifient mutuellement. La grandeur d'âme non seulement ne livre aucune entrée à l'orgueil, mais c'est elle surtout qui fait pénétrer l'humilité. Une vraie grandeur d'âme est accompagnée d'humilité. Et à l'occasion de l'humilité, aucune lâcheté ne se glisse dans l'âme. L'homme ne présume pas de ses forces, même dans les petites choses. Et il se confie en la puissance de Dieu, surtout dans les grandes. Donc l'humilité et grandeur d'âme vont ensemble. Alors il ne faut surtout pas se dire, ça peut parfois s'entendre, mais de toute façon, moi, serez jamais un grand saint ou que sais-je. Est-ce que vous en savez? Peut-être que le bon Dieu vous appelle à une grande sainteté, voyez. Et donc il faut vouloir aller le plus loin possible dans la sainteté. Pas vouloir se contenter je m'arrête là, non. Il faut toujours aller plus loin. D'autant plus que quand on s'arrête, on recule hein, dans la vie spirituelle. Donc il faut toujours vouloir progresser, toujours vouloir tendre à aller plus loin dans l'amour de Dieu. Hein? Et donc il faut une grandeur d'âme, une magnanimité, vouloir aller haut, avoir un grand idéal. Et cela ne nuira pas à l'humilité qui fait qu'on va s'appuyer sur Dieu et non pas sur nous pour atteindre cet idéal. Alors, je viens maintenant sur les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, plus spécialement. Eh bien, ces difficultés, voilà, du monde moderne, ne doivent pas nous impressionner ni nous décourager si nous sommes bien persuadés de ces deux principes. Dieu, nous dit saint Paul, est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Donc ne disons pas « aujourd'hui, c'est plus possible ». Non, aujourd'hui, c'est possible parce que Dieu est tout puissant et je vais m'appuyer sur le bon Dieu. Voilà. Donc Dieu est fidèle, il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-dessus de nos forces. Mais il disposera l'épreuve, la tentation, de telle manière à ce que vous puissiez la supporter. Et pensez que la tentation ou l'épreuve, au contraire, n'est pas le péché, ce n'est pas le péché, et ça peut même être occasion de sanctification. Hein. Le bon Dieu, quand il veut faire un chef-d'œuvre dans ses saints, il y va, hein. Il envoie les épreuves, il envoie les tentations, enfin, il permet les tentations du démon, vous voyez. Et quand on voit comment ont été tentés les saints, on se dit... Voilà. Donc il faut se confier dans le bon Dieu. Le bon Dieu est fidèle. Et donc en particulier à notre époque, voyez, où on peut se sentir parfois démuni, alors je prends une comparaison. Autrefois, dans un contexte de chrétienté, où les lois civiles étaient tout imprégnées de l'Évangile, où notre Seigneur régnait sur la société, eh bien, la vie chrétienne était facilitée par les lois. Elle était facilitée par la vie sociale. Il y avait une sorte de... On se portait en commun vers l'idéal du christianisme. Aujourd'hui, on a tout l'inverse. On a des lois qui vont au contraire à l'opposé du christianisme. Des lois qui, au lieu de nous porter, eh bien, encouragent le vice, hein, que ce soit l'avortement, que ce soit tous les désordres qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Eh bien, ces lois mauvaises, voyez, même si on est plus soutenu par les bonnes lois qu'il y avait autrefois, eh bien, le bon Dieu va suppléer. C'est-à-dire que le bon Dieu, dans les circonstances où on est, va nous donner des grâces spéciales. Dieu est fidèle et dans le contexte d'aujourd'hui, il va nous donner les grâces de suppléance dont on a besoin pour arriver à garder cette vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui et une vie chrétienne intégrale. Alors simplement, il faut toujours nous appuyer sur le bon Dieu. Alors je voudrais maintenant revenir sur deux choses que j'ai évoquées, la prière et le sacrifice, qui sont deux grands moyens pour nous de progresser. Et je citerai deux paroles, une de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et une du Cardinal Pie. C'est très beau parce qu'ils reprennent exactement la même image. La même image pour ces deux réalités de la prière et du sacrifice. Et juste une petite chose en passant, mais j'ai pu avoir l'occasion ces dernières années de parler de beaucoup de vies de saints, des saints franciscains en particulier, à une communauté de religieuses. Et en passant sur toutes ces vies de saints, je réalisais de plus en plus qu'il y avait toujours deux constantes dans la vie de ces saints, la prière et le sacrifice. Les saints sont des âmes de prière et des âmes de sacrifice. C'est une constante. Vous ne trouverez jamais un saint où il n'y a pas ces deux choses. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait ceci. Elle parlait d'Archimède, vous savez, ce philosophe grec, qui cherchait un levier pour soulever le monde. C'est un peu curieux. Il cherchait un levier pour soulever le monde. Alors, elle ajoute, ce qu'il n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu. Vous voyez, sa demande ne s'adressait point à Dieu. Le chrétien, lui, demande à Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Donc, ce qu'il n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, hein, les saints, eux, l'ont obtenu. Ils ont obtenu ce levier pour soulever le monde. Ils l'ont obtenu dans sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même. On s'appuie sur Dieu. Et pour levier, il leur a donné l'oraison, la prière, qui embrase d'un feu d'amour. Effectivement, c'est dans la prière, qui est en fait un contact, un cœur à cœur avec Dieu, que la charité surtout va grandir en nous. Hein, quand on aime quelqu'un, ben on lui parle. Et plus on vit en rapport avec lui, plus notre amour va grandir. Mais si au contraire on voit de moins en moins souvent, ben on dit hein, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Eh bien, c'est pareil dans la vie spirituelle. Si on aime Dieu et qu'on veut l'aimer davantage, il faut vivre en sa compagnie, essayer de le prier avec ferveur, avec constance, régularité. Eh bien, voilà ce que nous dit Sainte Thérèse. Dieu donc, a donné au saint pour point d'appui lui-même et pour levier l'oraison, la prière. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent aujourd'hui. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront encore, hein, par la prière. Alors, j'évoque en particulier une prière, ce que la Sainte Vierge a beaucoup évoqué dans ses dernières apparitions, hein, du siècle dernier, la prière du chapelet. Vous voyez, peut-être que vous ne vous sentez pas des champions pour ce qui est de l'oraison, ou de... voilà. Eh bien, pensez que la Sainte Vierge elle-même nous donne une méthode simple de prière qui est le chapelet. C'est une prière un petit peu longue, et il faut que la prière soit un petit peu longue pour qu'elle soit profonde. Hein, un petit peu longue, avec les plus belles prières qui sont le Notre Père, le Salut Marie, et puis avec la méditation des vérités de notre foi qui va justement embraser notre cœur. Si je contemple notre Seigneur sur sa croix, voilà, je médite ce mystère. Eh bien, ça va nous porter à l'aimer, à lui rendre amour pour amour. Voyez. Eh bien, pensez à cela. La prière du chapelet est très puissante pour nous sanctifier. Simplement, il faut bien la faire. Hein. Alors, le pape Pie IX, voyez, disait ceci, « Donnez-moi une armée de chrétiens qui disent le chapelet et je ferai la conquête du monde. » Et Sœur Lucie de Fatima, qui justement a connu un peu notre époque, hein, elle est morte en 2005, hein, eh bien elle disait ceci, la Sainte Vierge, à notre époque, a donné à la prière du chapelet une puissance toute spéciale, si bien qu'il n'y a aucun problème dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie de l'Église, qui ne puisse être résolu par la prière du chapelet. Et vous savez que c'est aussi le testament de Saint Pie X, hein. C'est aussi le chapelet, en particulier le chapelet en famille. Donc voyez, la prière, et en particulier le chapelet. Premier levier, la prière. Et deuxième levier, c'est le cardinal Pie qui nous en parle. Il nous dit ceci, ce n'est qu'avec le levier de la croix, et en lui donnant pour point d'appui notre propre vie, que nous ébranlerons le monde et que nous le sauverons. Voyez, exactement la même image, mais appliquée à deux réalités différentes, mais complémentaires, la prière et le sacrifice, que l'on retrouve dans la vie de tous les saints. Alors, pour nous, cette croix, bien, c'est justement ces renoncements au monde aujourd'hui. Voyez. Aujourd'hui, le monde eh bien, propose beaucoup de choses auxquelles les chrétiens doivent dire non. Doivent dire non, avoir la force de dire non sur certaines choses, ou de savoir dire oui que dans la mesure où, voilà. Et ça demande de savoir se dire stop, voilà, savoir se renoncer. Eh bien, Saint Jean nous dit ceci, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et notre Seigneur lui-même nous dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent, mais c'est le monde en général. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Il faut choisir, il faut choisir. Voilà. Alors, le chrétien, il vit dans le monde, mais il ne doit pas être du monde. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir l'esprit du monde, il ne doit pas vouloir eh bien, se conformer au monde. Au contraire, saint Paul nous dit exactement l'inverse. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous devons quand même vivre dans ce monde. Alors, il va falloir user des choses de ce monde dans la mesure où, elles nous permettent de mieux accomplir notre devoir d'État, ou dans la mesure où elles sont nécessaires à notre devoir d'État. Vous voyez que toujours la règle qui doit nous illuminer, nous éclairer, c'est cette volonté de Dieu, devoir d'État. Est-ce que telle chose, c'est nécessaire à mon devoir d'État? Est-ce que ça va m'aider à accomplir mon devoir d'État? Ou est-ce qu'au contraire, ça va m'en éloigner? C'est ça qui doit être notre règle de conduite par rapport à l'usage des choses de ce monde. Hein? C'est la règle d'or, parce que, rappelons-nous, c'est saint Paul et saint Pierre qui nous le disent tous les deux, le chrétien est un pèlerin et un étranger en ce monde. On ne s'installe pas ici-bas. On marche vers l'éternité. Donc il ne faut pas s'accrocher. Il faut au contraire essayer de faire du lest. Mais sinon, eh bien, effectivement, on sera vite engouffré dans le matérialisme, le consumérisme ambiant de notre époque. Donc toujours, par rapport aux choses d'ici-bas, avoir ce petit examen. Est-ce que ça va me détourner de mon devoir d'État? Est-ce que ça va faciliter mon devoir d'État, le mien ou celui de ceux qui dépendent de moi, hein? Et il importe aussi, à notre époque, j'insiste un petit peu sur ce point, c'est très important, de ne pas succomber au respect humain. Au respect humain. Quand on est plongé dans un contexte social, bah, naturellement, on va vouloir se conformer aux autres, hein? Donc je prends un exemple. Un chrétien qui arrive dans un milieu où il travaille, où au contraire il n'y a que des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, ou que sais-je, eh bien il y a un grand risque qu'il cache complètement sa foi, et que finalement il y aura peut-être des critiques qui seront faites sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'Église, que sais-je. Il n'aura même pas le courage de dire le moindre mot parce qu'il n'a rien dit. Voilà, il a eu peur, si vous voulez. Et c'est vrai que ça demande parfois un certain héroïsme, hein. Mais il ne faut pas, eh bien, avoir du respect humain. Cela demande une certaine force. Parfois, le monde, d'ailleurs, n'attend de nous que cela, que nous nous montrions chrétiens. Alors, il y a aussi parfois des contextes où ça va attirer sur nous, peut-être, hein, certaines persécutions, hein, ça peut arriver. Voilà, dans ce cas, il faut quand même avoir une certaine prudence, bien sûr. Hein, mais gardons quand même le principe dans la mesure où je peux, où je le dois, eh bien, je m'affiche quand même tel que je suis. Voilà. Et en particulier, ça va passer par l'exemple. Hein, l'exemple. Ça, c'est très fréquent, mais hein, comme justement dans le milieu du travail, il peut y avoir des personnes qui ont des mauvais propos, ou que sais-je. Eh bien, pour le chrétien, ne pas rentrer dans ce jeu-là, vous voyez. Pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà. Savoir rester chrétien partout, partout. Nous ne sommes pas encore dans un contexte de persécution comme dans les premiers siècles de l'Église. Il n'y a pas encore de persécution violente. Voilà. C'est plutôt une persécution morale qui est d'ailleurs beaucoup plus dangereuse. Mais voilà. Donc, les chrétiens des premiers siècles n'ont pas reculé même devant la persécution physique. Eh bien, il pourra se faire peut-être qu'un jour nous y soyons affrontés. Hein. Mais il est certain que l'Église et le christianisme pourra beaucoup moins faire de bien ici-bas si les chrétiens se montrent trop faibles par rapport à leurs convictions, okay, par rapport à leur foi. Parce que, bien, on risque un petit peu trop de s'effacer devant le monde actuel. Et, comme je le disais, au contraire, parfois, certaines personnes n'attendent que cela, hein, ce témoignage qui va les aider et qui va les encourager à devenir meilleurs. Voilà. Alors, une certaine mortification aussi, bien sûr, par rapport à tout ce qui est, eh bien, tout ce qui est divertissement périlleux, hein, en particulier dans tout ce qui est les moyens audiovisuels. Hein, donc là, c'est un exemple typique, voyez, où il y a de grands dangers pour la vie spirituelle, pour la sainteté, même pour le salut, tout simplement. Et donc, c'est surtout là que le renoncement va devoir se pratiquer. Donc, dans la mesure où on n'en a pas du tout besoin, pourquoi pas s'en passer totalement ? Ceux qui font ce sacrifice-là, ils en voient les fruits après. Et en général, parfois, certaines familles qui ont réussi à se priver totalement de certains moyens, parce qu'ils n'en ont pas besoin pour leur devoir d'État, qu'ils arrivent à vivre sans, même si ça représente un certain renoncement, eh bien, c'est là qu'on voit parfois les plus beaux signes de sainteté. Voilà. Les familles qui arrivent à avoir une vie chrétienne bien simple, mais bien intègre, parce qu'elles ont réussi à être généreuses sur ce renoncement. Parfois, ce ne sera pas possible. On devra avoir tel instrument, tel... Voilà. Et bien, dans ce cas, il faudra savoir le limiter, prendre des mesures de prudence pour éviter toutes les conséquences néfastes que cela pourra avoir sur la vie chrétienne. Voilà. Alors, bien sûr, ces renoncements-là, ça coûte, sinon ce ne serait pas du renoncement. Mais pensez encore une fois que, eh bien, ces renoncements nous donnent un certain bonheur. Et on voit des familles qui, justement, sont parfois très détachées de tout cela, qui ont un bonheur simple, une vie chrétienne simple, et qui est bien plus grand que dans d'autres familles où on s'est accordé trop de choses qui, finalement, sont parfois bien inutiles ou dédommageables. Ou dommageables. Alors, enfin, je dirais, ne disons pas aussi que la croix ou la difficulté est trop grande pour nous. Tout est possible à celui qui aime. Et puis, nous ne nous sanctifions pas malgré la croix ou malgré les circonstances dans lesquelles le bon Dieu nous a mis, mais on se sanctifie par la croix, par les circonstances dans lesquelles le bon Dieu nous a mis. Très important cela. On se sanctifie dans le concret. Le concret, c'est le vécu, c'est le maintenant, là où je suis. Donc, il ne faut pas vouloir s'imaginer dans des autres circonstances. Tiens, mais si j'étais dans telle circonstance, je pourrais me sanctifier ou que sais-je. Non, c'est là où je suis que je me sanctifie. C'est là que mon Dieu me donne la grâce pour me sanctifier. Et je vous raconterai une petite histoire pour illustrer cela, un petit peu drôle. C'était quelqu'un justement qui se plaignait toujours que sa croix était trop lourde. Hein. La croix était trop lourde. Alors, il se plaignait souvent à son ange gardien en lui disant « La croix est trop lourde, il en faudrait une autre. » Et puis un jour, pendant la nuit, il a un songe et il se voit. Eh bien, il voit son ange gardien qui l'emmène dans un endroit où justement il y a toutes sortes de croix, de différentes tailles, de différentes... voilà, elles sont plus douces que d'autres, plus rudes. Voilà, choisi. Alors il fait un petit peu le tour des croix. Non, pas celle-ci. Puis finalement, quand il a tout fini, il arrive devant une croix toute petite. Ah, celle-ci. Elle me plairait bien, celle-ci. Et puis il y a son ange gardien qui lui dit, mais c'est celle-ci que tu avais. Voilà. Et pensons à cela, c'est très vrai. Il ne faut pas vouloir porter la croix des autres. C'est celle que le Bon Dieu nous a mis qui est faite pour nous, et c'est celle-ci qui est faite pour nous sanctifier. Alors juste une petite évocation du tiers-ordre franciscain. C'est important aussi. Pour maintenir l'esprit chrétien dans la société, voyez, eh bien, Saint François d'Assise a eu cette inspiration de créer le tiers-ordre. Le tiers-ordre, c'est justement fait pour répandre l'esprit chrétien dans toutes les couches de la société. Hein? Vous savez comment, historiquement, comment est arrivé le tiers-ordre ? C'est que Saint François a fondé son ordre, et il y avait tellement de monde qui voulait rentrer dans l'ordre, parfois des personnes qui étaient mariées, qui étaient, je ne sais pas, maires du village, ou, enfin, qui avaient des postes vraiment importants dans la société, qu'ils se rendaient compte que s'il acceptait tout le monde, ben, la société allait s'écrouler autour de lui. Et donc il leur a dit stop, restez là où vous êtes, mais je vais vous donner une règle de vie. Voilà. Et il leur a donné la règle du tiers ordre, qu'il n'a pas composée d'ailleurs lui-même tout seul, mais avec le secours d'un cardinal de l'Église, le cardinal Ugolin, qui serait le futur Grégoire IX. Voilà. Hein? Et donc, il a établi cette règle du tiers ordre. Et quel est cet esprit qui transparaît à travers la règle du tiers ordre? On peut dire deux esprits. On retrouve les deux choses qu'on a évoquées, les deux leviers, la prière, le sacrifice. Bien, le tiers ordre est fait pour répandre un peu l'esprit de piété, hein, et puis l'esprit aussi de pénitence, de renoncement. Okay. Ces deux esprits qui sont très importants, caractéristiques du christianisme. Et aussi l'esprit de justice et de charité dans la société. Et effectivement, le tiers ordre a vraiment beaucoup fait pour le bien social de la chrétienté. Et l'âge d'or de la chrétienté, c'est justement ce XIIIe siècle où nous voyons le tiers ordre de saint François qui se répand et qui se répand dans toutes les couches de la société. On voit au XIIIe siècle, eh bien, un saint Louis, roi de France, sainte Élisabeth de Hongrie, reine d'Autriche, voyez, qui étaient des membres du tiers ordre, qui sont les patrons du tiers ordre franciscain. Il y a aussi d'autres rois de l'époque qui étaient tertiaires, voyez, et qui avaient cet esprit chrétien qui a permis, eh bien, le plus grand rayonnement de la chrétienté au XIIIe siècle. Mais ceux qui ont le plus insisté sur le tiers ordre, ce sont les papes qui ont connu justement le déclin de la chrétienté depuis la Révolution française. Et depuis Pie IX jusqu'à Pie XII, eh bien, ces six papes qui se sont suivis ont tous été tertiaires franciscains. Et ils ont tous encouragé à rentrer dans le tiers ordre, en particulier Léon XIII, qui disait « Ma réforme sociale à moi, c'est le tiers-ordre franciscain ». Et le tiers-ordre a aussi été un grand contrepoids aux actions néfastes et destructrices de la franc-maçonnerie dans les États où le tiers-ordre s'était répandu. Donc ce petit parenthèse sur le tiers-ordre, dont je vous ai mis quelques tracts ici. Ensuite, je termine par juste des petites... Petit complément, ce sera ma conclusion. Je voudrais d'abord partir d'une petite histoire tirée d'un livre qui s'intitule « La sagesse d'un pauvre », qui est la vie de saint François, un petit peu romancée par un père franciscain qui s'appelle le père Éloi Leclerc. Il met en scène saint François qui se promène dans la forêt avec un de ses frères qui ne le quittait jamais, frère Léon. Et il passe près d'un cours d'eau. Et là, saint François, vous savez, il était une âme vraiment toute tournée vers Dieu, pleine de louanges. Il voit la beauté de l'eau qui jaillit, qui est toute pure, tout cela. Et il est émerveillé devant la pureté de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Réflexe de son âme, il se tourne vers Dieu et il loue le bon Dieu. Il part en éclat de louanges devant le bon Dieu pour la pureté de l'eau. Et derrière lui, il y a frère Léon. Et frère Léon, lui, il est tout maussade, tout triste. Et puis il dit « Oui, oui, mais nous, on ne sera jamais pur comme cette eau. On sera jamais pur comme cette eau. » Voyez, on voit ici deux états d'âme très différents. Premier état d'âme, c'est le bon. Celui de saint François, sa vie spirituelle, elle est tournée vers Dieu. Il ne se regarde pas tant lui-même, il regarde Dieu. Quand il voit la pureté, la beauté des créatures, il s'élève vers le bon Dieu. C'est l'amour de Dieu qui jaillit de son cœur. Au contraire, vous avez frère Léon, qui lui est tout tourné vers lui. Et donc il regarde son âme, il dit « Oui, mais moi je ne serai jamais pur comme cette eau. » Et donc il est tout négatif. Et bien vous avez là deux attitudes qui sont très importantes pour la vie spirituelle. La bonne attitude, c'est celle de saint François. Et c'est ce que saint François va dire à frère Léon. Il lui dit « Je comprends ta tristesse. Ne regarde pas tant la pureté de ton âme. Ne regarde pas tant où est-ce que tu en es dans la sainteté. » On peut être un petit peu comme ça, parce que j'en suis, puis on se voit avec toutes ces misères, et on s'abat, on se décourage. Voilà. Saint François dit, ne regarde pas tant la pureté de ton âme, tourne ton regard vers Dieu. La solution, elle vient de Dieu. Rappelez-vous, la sainteté, c'est l'œuvre surtout du bon Dieu. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, hein, se tourner vers mon Dieu. Jamais se décourager de nos misères. Faire comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a abandonné sa misère au bon Dieu, et qui repartait paisiblement dans sa vie d'amour de Dieu. Enfin, l'amour de Dieu, donc on a dit que c'était le principe de la sainteté, puisque l'amour, c'est finalement, le bon Dieu est amour, et c'est lui qui est au principe de notre sainteté. On a dit que l'amour, c'était la fin de la sainteté. Hein, je suis fait pour aimer. Et enfin, il faut dire aussi, et c'est un petit peu un secret de sanctification, que l'amour, c'est aussi le chemin de la sainteté. C'est aussi le chemin de la sainteté. Et là, je voudrais m'appuyer sur des paroles très belles de saint François de Sales et de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout d'abord, saint François de Sales, voilà ce qu'il disait. Prends cette image. Quand la maison est en feu, on jette tous les meubles par les fenêtres et par la porte. Voilà. Eh bien, il fait l'application. De même, quand le cœur est enflammé d'un ardent amour de Dieu, il tient pour peu de choses et même pour rien tout ce qui n'est pas Dieu. Et il n'a aucune peine à s'en détacher. C'est aussi une façon pour nous d'arriver à nous détacher, c'est justement d'aimer le bon Dieu. Si on aime le bon Dieu, ça nous aidera à nous détacher. Si on a beaucoup de mal au détachement, c'est aussi parce qu'on n'est pas suffisamment bon Dieu. Quand le bon Dieu m'envoie une âme généreuse, dit saint François de Sales, je tâche d'allumer le feu de l'amour aux quatre coins de la maison. Et je suis sûr que les misères et les frivolités mondaines, s'il en restait encore, vont bientôt s'abîmer et se perdre dans cet incendie. Vous voyez, saint François de Sales prend comme méthode de sanctification la charité, aimer. Alors, une autre parole de saint François de Sales qui va dans le même sens. Le moyen le plus propre, le plus aisé, le plus droit pour aimer Dieu de tout son cœur, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Tout le secret d'arriver à cet amour, c'est d'aimer. Car, comme on apprend à étudier en étudiant, à parler en parlant, à courir en courant, à travailler en travaillant. Ainsi, apprend-on à aimer Dieu et le prochain en l'aimant. Et ceux qui prennent une autre méthode se trompent. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus a les mêmes paroles, vous voyez. Elle écrivait à une de ses cousines, je crois, ces beaux mots. Tu me demandes un moyen pour arriver à la perfection. Je n'en connais qu'un seul, l'amour. Commençons par l'amour, continuons par l'amour et nous verrons qu'il n'y a pas de meilleur ouvrier de la perfection que l'amour. Alors elle faisait beaucoup d'actes d'amour au cours de ses journées, vous voyez. C'est une sainte capucine qui avait eu des révélations de notre Seigneur, elle s'appelle Sœur Consolata Bétrone. Notre Seigneur lui demandait tout simplement, au quotidien, très régulièrement, de lui dire cette petite oraison jaculatoire. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et toute sa vie était informée par l'amour de Dieu parce qu'elle était fidèle à régulièrement offrir cette petite oraison jaculatoire qui lui faisait aimer le bon Dieu et faire tout par amour pour Dieu. Enfin, un dernier secret qui nous est donné par Saint-Marie Grignon de Montfort, c'est le secret de Marie. Hein? Le secret de Marie. Saint-Marie Jean Montfort a parlé de comment s'appelle, du traité de la vraie dévotion. Il a écrit le traité de la vraie dévotion et il a écrit aussi un petit résumé qui s'intitule Le secret de Marie. Et voilà ce qu'il nous dit. Tout se réduit à trouver un moyen facile d'obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir un saint. Or, je dis que pour trouver cette grâce, il faut trouver Marie. Très sainte Vierge est médiatrice de toute grâce, hein, c'est dans notre foi cela. Puisque Marie, nous dit-il, a formé le chef des prédestinés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est elle aussi qui va former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. Et le Père Jean de Jésus aussi, un carme, qui a écrit un livre sur la vie spirituelle et le rôle de la Très Sainte Vierge dans notre vie spirituelle, à cette belle parole aussi. Le rôle de Marie consiste à échauffer notre volonté à la flamme de son cœur immaculé pour l'amener suavement et fortement à vouloir toujours ce que Dieu veut. Échauffer notre volonté pour l'amener suavement et fortement à vouloir toujours ce que Dieu veut. Très Sainte Vierge est comme ce lien qui nous unit à Dieu très étroitement. Elle est la mère du pur amour. Voilà. J'achève ainsi cette conférence sur sainteté aujourd'hui. Donc, c'est possible. Je termine en voici une dernière parole de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, un jour, c'était sa sœur qui lui demandait « Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un saint ?» Et il répondit simplement par ce mot « le vouloir encore, le vouloir toujours. » Donc, il faut le vouloir.